des généralités, trois développements et une conclusion. Quel sera le menu de ce matin ? Généralité, premier indice. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser cette question ? Pourquoi cette exigence est formulée au singulier et pas au pluriel ? On aurait très bien pu avoir « vous aimerez vos prochains comme vous-même » ou encore « tu aimeras tes prochains comme toi-même ». Mais non, c'est bien au singulier que Dieu a formulé cette injonction. C'était le premier indice. Deuxième indice. Dans son épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22, l'apôtre Paul établit la liste des fruits de l'esprit, vous les connaissez, amour, joie, paix, patience, bienveillance, etc. Question, comment faire pour porter ces fruits ? L'apôtre Paul nous donne la réponse, ou une partie de réponse, la réponse, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, lorsqu'il nous dit que nous devons être transformés par l'Esprit Saint. Transformés par l'Esprit Saint. Et alors, si on réunit nos deux indices, nous avons d'une part un prochain au singulier, et d'autre part, une transformation de soi par le Saint-Esprit. À partir de ces deux bases, j'aimerais que nous nous arrêtions ce matin sur deux domaines particuliers de cette transformation par l'Esprit. Nous allons parler du regard et de l'écoute vis-à-vis du prochain au singulier. Si les évangiles nous rapportent que le Christ a consacré beaucoup de son temps à s'adresser aux foules, à les enseigner, jusqu'à les nourrir par deux fois, le narratif, cependant, fait la part belle aux rencontres personnelles, individuelles, singulières. Ainsi, nous avons toute une série de listes de personnages, au rang desquels figurent, pour n'en citer que quelques-uns, un Nicodème, docteur de la loi, un centurion, une femme atteinte d'une longue maladie, un aveugle nommé Bartimée, un jeune homme riche, une samaritaine près d'un puits, et j'en passe. Voici, non pas une, mais trois histoires suivies d'une quatrième qu'on va se réserver pour un petit peu plus tard. Trois histoires. Peut-être vous ai-je raconté la première. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, certaines églises baptistes ont eu à cœur de former des missionnaires pour aller évangéliser certains pays d'Europe, notamment en Espagne. Un jour, en ce premier quart du XXe siècle, un de ces missionnaires américains distribuait des tracts sur une rambla. Une rambla, en espagnol, c'est une promenade de front de mer. Et il avait de quoi faire parce qu'en cette fin d'après-midi, il y avait beaucoup de monde sur cette rambla, lorsque soudain, le regard de ce chrétien fut attiré par un homme assez jeune qui se tenait là, prostré, assis, seul, sur un banc. L'Américain s'approcha et, s'arrêtant à sa hauteur, se rendit compte que le gars pleurait. Il fut pris de compassion pour ce pauvre bougre et lui dit quelque chose comme « Je vois que ça ne va pas, puis-je faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Racontez-moi, dites-moi. » L'Espagnol en question sentait l'alcool et à l'évidence, il était ivre. Cependant, il prit la parole pour expliquer qu'il venait de toucher le salaire de sa quinzaine à l'usine et qu'avec des potes, ils étaient allés faire la tournée des bars pour boire des coups, jusqu'à épuiser son maigre pécule. Et il pleurait parce qu'à la maison, sa jeune femme, handicapée par un AVC, et ses trois petits crevaient la faim. Emmanuel, c'était son prénom, s'apprêtait à rentrer pour annoncer que les jours à venir allaient être durs, très durs. Le missionnaire avait écouté avec une extrême attention et il prit la parole pour proposer à Emmanuel l'autre option, celle de l'abandon, du lâcher-prise définitif dans les mains de Christ pour accéder au salut. Au bout de l'entretien, il offrit un traité et un évangile au malheureux qui s'en alla. Le soir même, cet homme et sa femme se convertirent ensemble et commencèrent ensemble une vie nouvelle dans la lumière du Fils de Dieu. Ce gars en larmes, ivre, paumé, assis seul sur son banc, était mon grand-père maternel. Fin de la première histoire. Les deux suivantes, vous les connaissez par cœur. À partir de son verset, de son 37e chapitre, la Genèse nous raconte l'histoire de Joseph. Alors, on passe rapidement sur les mille et une péripéties qui ont précédé le petit épisode qui nous intéresse. Après avoir résisté aux avances très insistantes de Madame Potiphar, Joseph se retrouve en prison. Et il y est depuis un certain temps lorsque le chef des gardes lui propose d'être au service de deux hauts fonctionnaires du Pharaon qui viennent d'être incarcérés. Nous allons lire des extraits de deux ou trois versets, mais vraiment trois mots. Au chapitre 40 de la Genèse, nous lisons au verset 6, « Au matin, quand Josin vint vers eux, il vit qu'ils étaient de mauvaise humeur. Il s'approcha d'eux et leur dit, « Pourquoi avez-vous l'air sombre aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve. » Fin du verset 8, Joseph leur dit, « Racontez-moi, je vous prie. » Troisième histoire, peut-être encore plus connue que la précédente, celle du bon samaritain. En résumé, un homme se fait agresser par des bandits qui le laissent à moitié mort sur le bas-côté du chemin. Un prêtre arrive, le voit et passe à distance. Un lévite arrive, le voit et passe à distance. Un samaritain arrive, le voit, il s'approche et le soigne. Premier développement. Dans les trois cas, juste avant la rencontre, chacun était soit occupé, soit se déplaçait. Joseph était en service au moment où il vit, le samaritain se déplaçait au moment où il vit, et le missionnaire distribuait ses tracts sur sa rambla au moment où il vit. Ouvrons une parenthèse. Que peut-on dire sur la vue ? La vue, c'est un moyen dont nous disposons pour alimenter notre cognition. C-O-G-N-I-T-I-O-N. La vue est un outil cognitif. Qu'est-ce que la cognition ? Pour faire court, on peut dire que c'est notre centre de renseignement. Et si on va un peu piocher dans les définitions, on nous dit « La cognition, c'est l'étude de nos activités de renseignement sur le monde qui nous entoure et dans lequel nous évoluons. La cognition se sert des sens, la vue, le toucher, l'odorat, etc., de l'attention, de la mémoire, des plein de choses. Il est à noter que les mots de cognitif et cognition sont empruntés au vocabulaire de la psychologie. Alors il faut illustrer un peu tout ça parce que c'est un peu obscur. Du matin au soir, nous voyons des milliers de choses. Des objets, des décors, des couleurs, des personnes, des mouvements, tout ce que vous voudrez. Et des études ont montré, il y a des gens qui font des drôles d'études, mais des études ont montré que le regard humain est capable de balayer 60 images par seconde. De la même manière, du matin au soir, nous entendons des centaines de sons, des voix, des bruits de toutes sortes, des chocs, des frottements, bref, tout ce qui nous renseigne sur l'univers sonore dans lequel nous nous situons. Et face à cette incroyable masse d'informations, en permanence, nous opérons un tri sélectif. Et oui, un tri sélectif pour ne retenir que ce qui va pouvoir nous être utile, va pouvoir nous servir, et nous nous débarrassons immédiatement de tout le reste. Exit. Cette cognition, cette prise de conscience des éléments de notre milieu dans lequel nous évoluons, induit et module la quasi-totalité de nos réactions et de nos comportements. Fermons la parenthèse et revenons à nos trois histoires avec une question. Comment se fait-il que Joseph, le Samaritain et le missionnaire, avec leur cognition à 60 images par seconde, aient vu et retenu sans l'éliminer l'image du prochain au singulier? Pardonnez cette réponse quelque peu simpliste. Dans ce que nous percevons des autres, nous pouvons être ou ne pas être sous l'influence de la compassion. Et en général, la cognition suffit. Vous savez, on vit très bien sans compassion. À tel point que le manque de compassion est la marque de fabrique, l'estampille de tous les réussisseurs. Si vous voulez réussir dans la finance, dans la politique, dans le pouvoir, dans le business, surtout, surtout, pas de compassion. Telle est la loi de la jungle humaine dans laquelle nous vivons, telle est la loi du monde sans Dieu. Or, nous, chrétiens, nous avons été au bénéfice d'une différence vertigineuse. Elle consiste en ce que, grâce au salut offert en Jésus-Christ, nous avons été appelés enfants de Dieu. Or, les enfants de Dieu ont été rendus aptes à recevoir l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, l'apôtre Paul nous l'a rappelé dans la lettre aux Corinthiens, bien plus qu'un influenceur extraordinaire, est un transformateur de vie. Et parmi les transformations que l'Esprit opère en nous, se trouvent les deux qui nous intéressent. L'Esprit de Dieu est capable de relier, ou si vous préférez, de connecter directement la vue et l'écoute au cœur. En quelque sorte, il abolit les limites de la cognition naturelle. Et à ce propos, l'évangile de Marc nous donne un exemple saisissant. Et cet exemple est la forme d'un raccourci absolument fulgurant, puisque ce raccourci ne tient qu'en quatre mots. À propos de sa rencontre avec le jeune homme riche, le texte dit exactement ceci. Jésus, l'ayant vu, l'aima. Jésus, l'ayant vu, l'aima. Il n'y a là aucun intermédiaire. La connexion du regard du Christ est directe au cœur. Ainsi, Au-delà de notre tri sélectif naturel, l'esprit nous rend aptes à une forme, et en général, de discernement. Il nous positionne très au-dessus de la simple cognition et on ne parle plus du tout alors de la même acuité. L'acuité naturelle des yeux permet de voir, mais l'acuité du cœur, elle, transperce. Pour peu que nous le désirions, Dieu nous rend capables de voir au-delà de ce que nous montre le prochain. Il nous rend capables d'entendre au-delà de ses silences. Et ce don, cette grâce, favorise toujours, toujours le rapprochement. Luc 10, le Samaritain le vit et il s'approcha. Deuxième développement. Après nos trois histoires, attardons-nous un instant pour considérer le parfait modèle que nous offre Jésus-Christ. Et pour ce faire, il est temps d'aborder notre quatrième histoire. C'est celle de la rencontre avec l'aveugle Bartimée. On la trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Que se passe-t-il ? Jésus se déplace dans la ville de Jéricho. Il est en compagnie de ses disciples et ils sont entourés par une immense foule qui les suit. Soudain, dans le brouhaha général, l'aveugle Bartimée se met à crier en disant « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi ». Savez-vous ce que dit le verset 49 ? Jésus s'arrêta. Lorsqu'il vit le jeune homme riche, Jésus l'aima. Lorsqu'il entendit l'aveugle Bartimée, il s'arrêta. Mais ce n'est pas tout. Le parfait modèle continue dans la pédagogie. Toujours au verset 49, Jésus dit à ses disciples, « Appelez-le ». Jésus fait en sorte qu'il y ait un rapprochement avec ce prochain. Est-ce que l'affaire s'arrête là ? Que nenni ! Le meilleur reste à venir au verset 51. Accrochez-vous à vos sièges. Jésus lui demanda : Que veux-tu que je fasse pour toi ? Non mais attendez. C'est quoi cette question ? Est-ce que le Fils du Dieu Tout-Puissant ignorait ce que désirait l'aveugle ? Ben, évidemment non. Alors pourquoi cette demande incongrue ? Sans doute. Pour donner à Bartimée l'occasion de verbaliser le premier. Pour qu'il puisse mettre en mots, quand même, à dire les psys. Jésus fait en sorte que la parole soit prioritairement du côté de l'autre, du prochain au singulier. Ce que nous venons de dire là est absolument essentiel. Le « que veux-tu que je fasse » de Jésus s'inscrit en écho avec le « pourquoi avez-vous l'air sombre » qu'avait énoncé Joseph. Si nous voulons être conformes au modèle parfait, il faut commencer par donner ou par offrir prioritairement la parole au prochain, plutôt que de lui infliger d'emblée toutes les effluves de notre admirable compassion. Finissons le récit. Maître, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue.
Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. »
Ici encore, le modèle est parfait. Pourquoi ? Parce qu'il nous enseigne que la finalité ou que l'aboutissement de la compassion, c'est l'action. Avec Jésus, la compassion est toujours le tremplin de l'action.
Alors, pour achever ce deuxième développement, si nous établissons une synthèse, cela donne à peu près, pour nos quatre personnes, Joseph, le Samaritain, Jésus et le missionnaire, ils ont vu ou entendu, ils se sont arrêtés, ils se sont rapprochés, ils ont donné la parole et ils ont écouté. Leur regard et leur écoute étaient connectés au cœur et leur compassion a été le tremplin d'une action, le modèle parfait restant. Chez Jésus, la compassion est toujours suivie d'une action réparatrice. Je répète, chez Jésus, la compassion est toujours suivie d'une action réparatrice. Troisième et dernier développement ou volet de notre réflexion. Je vais vous faire un aveu. J'ai des dispositions naturelles très prononcées pour ne pas voir. Il m'est infiniment aisé de me mettre hors d'état de voir et d'entendre mon prochain. Alors j'ai tendance à penser que c'est dans ma nature pour me protéger des autres, voyez. Sauf que, lorsque je me comporte ainsi, je le fais par manque ou par absence de compassion. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, nous dit l'apôtre Paul. Chaque fois que je me comporte comme ça, je ne suis rien. Zéro. Nous n'imaginons pas l'importance, nous ne mesurons pas la portée et la conséquence que peuvent avoir un regard ou un refus de regard, une écoute ou un refus d'écouter. Vous savez, il y a presque un an, le dimanche 9 juin 2024, ma petite fille Adeline, elle est où Adeline ? Elle est là-bas, coucou, est passée par les eaux du baptême ici. Savez-vous ce que cela m'inspire ? Je me dis, depuis le regard de compassion d'un missionnaire, il y a plus d'un siècle, les amis. Adeline représente la cinquième génération d'une lignée ininterrompue de personnes, ou pas toutes les personnes, loin s'en faut, mais enfin d'une chaîne que Dieu, dans sa grâce infinie, a fidèlement placée au bénéfice de la mort et de la résurrection triomphante de son Fils bien-aimé. Et après ce constat enthousiaste, vient une question. Quand je refuse ce premier regard, cette première écoute, est-ce que je ne deviens pas un frein, une opposition frontale à la réalisation des plans de Dieu vis-à-vis du prochain au singulier qu'il place sur mon chemin ? Épître de Jacques, chapitre 1, verset 9. Que tout homme soit prompt à écouter. Évangile de Luc, chapitre 8, verset 18. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Encore deux points avant de conclure. Premier point. D'aucuns n'ont sans raison ne manqueront pas d'objecter que la compassion n'a pas et n'a jamais été le monopole des seuls chrétiens. En effet, n'y a-t-il pas, de par le vaste monde, des centaines de structures ou d'associations laïques dans lesquelles des milliers de bénévoles s'impliquent avec des regards, de l'écoute, de la compassion et toutes sortes d'actions réparatrices? Mais alors, qu'est-ce qui distingue ce que nous allons appeler la compassion humaine de la compassion induite par le Saint-Esprit? J'imagine qu'il y a une tripotée de réponses plus pertinentes et plus brillantes les unes que les autres. J'en retiens une qui me paraît essentielle. Je crois que ce qui différencie fondamentalement la compassion qui vient de l'Esprit-Saint d'avec la compassion humaine, c'est que la compassion de l'Esprit-Saint s'inscrit toujours dans la dynamique du salut. Elle s'inscrit toujours dans la dynamique du salut. La finalité de cet élan animé par le souffle de l'Esprit, c'est le salut pour quiconque croit. Après ce deuxième point, ce premier point, nous abordons le deuxième qui traite de toute autre chose. La parabole du bon samaritain nous est proposée sous une forme très théâtralisée. Il y a une mise en scène, on imagine facilement des corps, il y a des figurants, le prêtre, le lévite, plus tard l'aubergiste, et puis il y a deux rôles principaux. Vous entendez? Deux, c'est-à-dire un singulier plus un autre singulier. Spontanément, est-ce par ego, instinct de survie, j'en sais rien, le spectateur de cette scénette va naturellement s'identifier ou faire un transfert pour s'approprier préférentiellement le rôle du plus fort, c'est-à-dire celui du bon samaritain. Et même si ce spectateur se dit « Oh là là, je ne suis pas du tout à la hauteur du rôle. » Mais alors, pourquoi cette appropriation? Parce qu'outre le beau rôle, ce personnage du bon samaritain est en possession d'une forme de pouvoir. Oui, oui, de pouvoir. Lorsque nous sommes dans la compassion vis-à-vis de quelqu'un, nous disposons en principe, allez, si ce n'est d'un pouvoir, mais d'une capacité, ou si vous préférez, d'une marge de manœuvre qui fait défaut au prochain en question, nous sommes en capacité de lui offrir une action réparatrice. Très bien, on est d'accord. Mais enfin, une fois qu'on a dit ça, on a quand même fait une omission majeure. Et c'est quoi cette omission? Eh bien, c'est qu'on a oublié de dire que ce rôle ou cette posture du bon samaritain est tout à fait aléatoire et précaire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. « Que celui qui est debout prenne garde de tomber. » Éphésiens chapitre 1, verset 18. Prends garde à toi, de peur que toi aussi, tu ne sois mis à l'épreuve. Et nous le savons, il suffit de rien. Une seconde, un accident, une épreuve subite, un deuil, un imprévu déstabilisant pour qu'aussitôt, la situation bascule et que sans la moindre transition, les choses s'inversant, nous nous retrouvions à demi-mort sur le bas-côté du chemin. Comment alors, dans ce rôle-là, non choisi, vais-je vivre le refus du prochain qui passe à ma portée ? Son refus de me voir, de s'arrêter, de s'approcher, de me donner la parole et de m'écouter. Comment vais-je vivre son refus d'action réparatrice ? Conclusion. Lorsque nous affirmons que nous sommes enfants de Dieu, cela signifie, entre beaucoup d'autres choses, que l'Esprit est à l'œuvre en nous, qu'il nous transforme, et que par conséquent, il nous est déjà arrivé, et il nous arrive, de fonctionner avec les yeux et les oreilles directement connectés au cœur. Dans des circonstances que lui seul choisit, Dieu nous a déjà rendus aptes à voir et à entendre chez notre prochain au singulier des choses qui n'ont pas nécessairement été dites ou montrées. Le propos de ce matin n'est donc pas de nous culpabiliser ou de nous stigmatiser au motif d'incapacité, mais bien au contraire, de nous encourager à plus de consécration dans la compassion et à laisser Dieu nous former ou nous transformer selon sa volonté, notamment dans le domaine de nos regards et de notre écoute, du regard et de l'écoute que nous portons à notre prochain. Nous laisserons les mots de la fin à la parole de Dieu avec trois citations bibliques. J'aime beaucoup ces mots du prophète Ésaïe au chapitre 50 lorsqu'il dit ceci. Le Seigneur m'a donné le langage des disciples pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Éphésiens chapitre 1, verset 8. Que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Et enfin, dans Hébreux au chapitre 13 et au verset 20, que le Dieu de la paix nous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen.